Nous continuons la série dans l'épître de Paul aux Romains. Et donc, la dernière fois, ou les deux dernières fois, nous avons parlé du chapitre 1 et les versets 16 et 17, et je vais poursuivre jusqu'au verset 22 ce matin. Donc, je vais lire Romains 1 à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, on va regarder ce texte ce matin. Donc, je vous préviens tout de suite que mon introduction, c'est à peu près les deux tiers du message. Parce qu'on va mettre ça un petit peu dans le contexte. Alors, on va dire que Romains 1, 18 et 22, c'est le début du diagnostic du problème de l'être humain. Ça va continuer sur trois chapitres. Donc, à la vitesse où on fait en ce moment, on sera là jusqu'à Noël. Non. Bon, on va peut-être aller un peu plus vite après, on verra. Mais en tout cas, c'est important de faire ce diagnostic. Parce que nous parlons du salut. Hein, au verset 16 et 17, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais le salut, c'est quoi? Bon, on sait que le salut, c'est être sauvé d'un danger, mais de quel danger? Quel est le diagnostic? Quel est le problème? Et Paul insiste tellement là que pendant trois chapitres, au moins deux chapitres et demi, il va insister, insister, insister pour que l'on comprenne quel est le véritable problème de l'humanité. Il aurait pu aller plus vite, pourrait-on dire, mais s'il a pris de temps, je pense que ça vaut la peine que nous puissions prendre de temps aussi. Donc, pourquoi le salut est-il nécessaire? Nous le voyons au verset 18. Parce que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les personnes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc c'est l'humanité. On va voir tout à l'heure que le Sommeur l'a traduit, qui étouffe la vérité, parce qu'ils la connaissent, mais ils l'étouffent. Donc, c'est un diagnostic qu'il faut accepter. J'aime beaucoup ces paroles de Jésus dans Luc 5. Je peux juste les lire quand il dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, il fait la comparaison entre malades et pécheurs, entre ceux qui sont en bonne santé et les justes en quelque sorte, si ça se trouve qu'il y en a, mais je ne suis pas sûr, parce qu'on va voir par la suite que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais si je mets ce verset en avant, c'est pour dire que le malade ne peut commencer son traitement que lorsque il accepte le diagnostic. Parce que s'il dit non, je vais bien, je n'ai pas besoin de cachet, je n'ai pas besoin de piqûre, je n'ai pas besoin de traitement, je vais bien, il ne pourra pas guérir. Donc il faut faire le bon diagnostic. C'est pour ça que j'ai mis ce verset Luc 5 au milieu de Romains, pour dire, là, on parle de diagnostic, on parle de problème. Alors, on pourrait donc poser la question, et c'est pour ça que je dis, je fais une longue introduction aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Alors, j'ai tapé cette phrase sur Google. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde pour voir quelle réponse on allait donner? C'est intéressant de savoir toutes les réponses que l'on donne. Je pense que, je dirais, si je résume les réponses, il y a deux types de réponses. Le premier type, c'est rien. Il faut l'accepter tel quel. Donc, il y a pas mal, enfin, pas mal. Il y a plus qui disent le contraire, mais il y en a quand même qui disent ça, que, bon, le monde n'est pas un lieu parfait, c'est pas un lieu idéal, mais il faut vivre avec ce monde tel qu'il est. Il faut accepter cette situation. On n'est pas trop loin de l'Ecclésiaste, d'ailleurs, qu'on a fait en études bibliques en disant cela. Ce monde-là, tout ne changera pas. Ça, c'est la, je dirais, la pensée très postmoderne. C'est qu'il y a les idéologies, aucune n'est bonne. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est changer son propre vécu, si on veut. On ne change pas le monde, on change son monde. On essaie de trouver la meilleure façon de vivre pour toi. Comme on dit, c'est mon choix, je fais ce choix et je vis avec. Et quelque part derrière tout cela, il y a cette notion que finalement, les problèmes ne viennent pas de l'être humain en tant que tel. Et là, je vais citer une première intervention, parce qu'au GBU, on a fait deux ou trois Forum Veritas récemment. Au Forum Veritas à Clermont-Ferrand, un certain Christian Echen, qui est secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée, a affirmé encore une fois, vous pouvez toujours trouver d'ailleurs ses interventions sur veritasforum.eu, vous allez trouver les interventions, mais Christian Echen dit « L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. » Voilà, il est bon celui-là, parce que les sociétés sont des hommes. Enfin, j'ai entendu dire la même chose à Lyon l'année dernière, donc ça fait un an qu'il n'a pas changé d'avis. Mais finalement, donc, voilà, on accepte la société, on ne peut pas changer ça, parce que soi-même, on est bon, donc on vit avec cela. Deuxième chose, c'est qu'il dit, oui, il faut changer le monde. Mais comment? Mais comment? Je ne sais pas. Alors, non, tu peux revenir. Il faut changer le monde. Alors, quelle solution pour changer le monde? J'en vois deux ou trois. Le premier, c'est des solutions politiques, en quelque sorte. Soit on dit... on laisse libre cours à l'économie du marché et puis tout va bien se passer. C'est lorsque le gouvernement intervient que ça ne passe pas bien. J'ai entendu récemment, le boucher, il va vendre la meilleure viande possible parce qu'il veut sa clientèle. Donc c'est une façon de le dire. Ou bien, il y en a d'autres qui disent, mais ça ne va pas comme ça, parce que les gens sont égoïstes, donc de l'autre côté de l'échiquier politique, on va dire, il faut intervenir. Alors, jusqu'où il faut intervenir, c'est la grande question, hein, parce que ceux qui sont intervenus jusqu'à tout planifier, le marxisme par exemple, on a trouvé que cet idéal, puisque c'est un bon idéal, était quand même assez liberticide et meurtrier, en fait. En réalité. Donc, on peut dire on change le monde en changeant les structures du monde. Mais d'autres vont dire, de toute façon, les structures-là, on n'y peut rien. Donc, les problèmes, c'est un peu à l'intérieur de nous. Donc, une deuxième façon de changer le monde, c'est essayer de changer les êtres humains. Et là, ça se divise en deux, parce qu'il y a la solution un peu psy, qui va dire ça va pas, tu souffres, c'est parce que tes parents ou ton école ou je ne sais pas quoi, ton employeur t'a T'as fait du mal, donc il faut s'en sortir en quelque sorte, mais une sorte de une vie sans fin. Parce que même les gens qui disent que c'est la faute de leurs parents, je vois qu'ils ont des enfants. Alors, c'est une vie sans fin, parce qu'ils disent c'est la faute de leurs parents, mais finalement, ils passent les mêmes fautes à leurs parents, à leurs enfants, etc. Mais pour le fond, en essayant de prendre un peu de hauteur et sans trop se moquer, en quelque sorte, de dire, voilà, il y a la direction. On ne change pas les structures de la société, ce n'est pas la politique qui va changer, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut changer les choses. Mais l'autre aspect de cela, que l'on voit ressurgir, je dirais, depuis combien de temps, c'est difficile de dire, mais ceux qui l'ont dit le plus clairement, ce sont les existentialistes qui vont dire que parler de nature humaine n'a pas de sens. Parce que jusque-là, la plupart de la philosophie était ce qu'on appelle essentialiste. Donc, on avait une essence. On est ce qu'on est parce que, oh, bah, on est comme ça. C'est notre nature. L'existentialiste va dire non, c'est l'existence qui prime. Et on le voit aujourd'hui avec beaucoup de théories de changement. On va dire, il n'y a pas de nature humaine, c'est la société qui crée les êtres humains tels qu'ils sont. Tout est artificiel, il n'y a pas de nature. Donc, il faut laisser chacun être ce qu'il est, il faut donner cette liberté. Et donc, tout ce qu'on dit théorie du genre, je mets au même au pluriel, va un peu dans ce sens. Mais il n'y a pas que cela. C'est la notion que finalement, on est ce que l'on est, mais il n'y a pas de nature préétablie, en quelque sorte. Donc c'est que la société qui forme les gens. Bon, tout ça peut sembler un petit peu abstrait, mais ça ne l'est pas, dans la mesure où, je dirais, on pourrait questionner les gens autour de nous, et je suis sûr qu'ils vont tomber sur une de ces catégories, en fait. C'est assez profond. Soit la politique va changer, ou la psychologie va me changer, ou on va essayer de changer les structures du monde autrement pour libérer chacun, pour être ce qu'il est, en quelque sorte. Voilà. Ce sont les trois types de changements envisagés. Et là, le chrétien va dire, et là je fais référence de nouveau au Forum Veritas à Lyon, qui était pour moi un modèle du genre, où Louis Schweitzer, donc le théologien évangélique, a débattu avec un des théoriciens de l'attaque, donc qui est plutôt pour une économie de gauche, on va dire. Et Louis Schweitzer, je cite, hein, il était très très fort en disant, et il a très très bien débattu. Et il a fait dire à l'autre, finalement, moi, ce que j'ai dit, ce n'est qu'une utopie. Et donc, ils ont dit, l'autre de l'attaque a dit, bon, moi j'ai ma foi, j'ai votre foi, finalement c'est pareil. Et Louis Spencer a dit, non, c'est pas pareil, parce que moi je crois qu'il y a un Dieu qui intervient effectivement dans le monde. Mais il a dit ceci face à son intervenant, donc là encore, si vous voulez l'écouter, c'est sur Forum Veritas, au veritasforum.eu, et il a dit, publiquement, je ne crois pas à la bonté naturelle de l'homme qui ne serait perverti que par les structures politiques et économiques. Je ne crois pas que cette bonté naturelle va soudainement se manifester lorsque les oppresseurs et les conditions extérieures auront changé. Et ça, donc on revient au diagnostic biblique, qu'est-ce qui ne va pas? Et la Bible ne croit pas au fond à cette bonté naturelle. C'est un peu comme dans le film Passerelle, ça m'a fait rire chaque fois que je le vois, lorsque un des personnages est interrogé et cite une anecdote qui aurait eu lieu pendant l'époque marxiste à Moscou, je ne sais pas si c'est une vraie histoire ou non, où la maîtresse pose la question à un enfant, alors qu'est-ce que le capitalisme? Et l'enfant répond, l'exploitation de l'homme par l'homme. Et la maîtresse dit, oui, c'est très bien. Alors qu'est-ce que le communisme? Ben, c'est le contraire. Donc c'est toujours l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc là, il est proche, en fait, de ce diagnostic biblique que l'on va voir. Et quelque part, les gens, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici devant vous, quelque part les gens se dévoilent dans leurs pensées pour voir que les autres pensées ne tiennent pas la route. Pourquoi? Par cette notion de normal. Parce que les gens l'utilisent dans deux sens. Ils vont regarder, observer le monde, et ils vont regarder ce qui se passe, et ils vont dire, c'est normal, c'est comme ça. Et puis tout d'un coup, ils vont voir quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont dire, c'est pas normal. Même si, en fait, tout le monde fait, on va dire, c'est pas normal. Donc on fait appel à un autre concept de normalité ou de justice qui vient on ne sait pas d'où. Donc, retenez ça parce qu'on va revenir à ça. Ok. Alors, donc pour la Bible, franchement et complètement, le problème est la nature humaine telle qu'elle est en ce moment. Donc, on croit d'une part, on croit qu'il existe une nature humaine, mais on croit que cette nature humaine n'est plus ce que Dieu voulait au départ. Donc, voilà les deux grandes affirmations. Alors, quelques autres versets autour de ça. Par exemple, Matthieu 15, 18 à 20. Matthieu 15, 18 à 20. C'est pas ça. C'est pas la bonne référence. Ah, si, 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 c'est bon. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille point l'homme. Donc manger, enfin, se laver les mains dans le sens rituel. Donc Jésus dit, les problèmes viennent de l'intérieur, du cœur de l'homme. Et le verset qu'on a cité tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou de la présence glorieuse de Dieu. Olivier l'a lu tout à l'heure, hein, il me semble, avant de dire que nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Je vais même aller. Bon, je ne sais pas si j'ai déjà mis cette citation. Je trouve que c'est une bonne citation. Vous savez que ça vient de Pascal. Blaise Pascal. Parce qu'il dit finalement, parce que il y a cette notion de normalité qui est définie de deux façons. Ce qui se passe et ce qui devrait se passer. Il y a dans le cœur de l'homme à la fois une notion du bien et du mal, mais le fait qu'il ne le fait pas. Et ça, il faut expliquer. Ça, il faut l'expliquer. Et c'est pour ça que je trouve que le diagnostic biblique est le plus pertinent. Et Pascal dit, pour moi, j'avoue qu'aussitôt que la religion chrétienne découvre, ça veut dire dévoile, hein, ce principe que la nature humaine est corrompue, est déchu de Dieu, cela ouvre les yeux à voir partout le caractère de cette vérité. La seule religion, voilà. Il faut pour faire qu'une religion soit vraie, qu'elle ait connu cette nature. Puis continue. Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que l'homme naît en péché. Nulle secte des philosophes ne l'a dit, nul n'a donc dit vrai. J'aime bien cette petite expression secte de philosophes. Donc, Pascal ne fait que dire ce que je venais de dire, que au fond, la nature humaine n'est pas bon. On ne peut pas dire qu'il a un bon fond. Mais dire que quelqu'un n'a pas un bon fond ne veut pas dire qu'il ne comprend pas la différence entre le bien et le mal. Il le sait. Donc l'être humain sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Et pourquoi? Donc on est toujours dans cette question de diagnostic, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, on va revenir donc maintenant, après cette introduction, à Romains 1. Et on va voir ce que dit le texte par rapport à cela. Le texte dit clairement que les hommes retiennent la vérité captive. Ou le semeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, traduit, on étouffe la vérité. Donc la Bible, c'est clair, met le doigt sur le fait que les êtres humains savent que Dieu est là et leurs paroles les trahissent. Comme je dis tout à l'heure, quand quelqu'un dit c'est pas juste, il est en train de dire Dieu existe. En fait. Parce que on ne peut pas avoir de notion absolue de bien et de mal si on n'a pas ça. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc, finalement, dans notre monde, c'est une définition un peu ironique de la laïcité, à laquelle je crois quand elle est bien vécue, hein, ça c'est pas un problème, mais une définition un peu ironique de la laïcité, c'est de dire, mais on fait comme si, on fait comme si. On fait comme si Dieu n'existe pas. On fait comme si. Mais Dieu est là. J'étais frappé cette semaine. Marie m'a raconté cela. Elle était au magasin mercredi, puis une cliente est venue et quelqu'un que l'on connaît, qui a commencé à parler de la faculté de penser de l'être humain, que les psys cherchent à comprendre, etc. Et Marie lui a proposé un livre. Cette femme se définit comme agnostique. Marie a donc a proposé le livre Dieu, l'homme et le cerveau. Et cette femme a dit, non, avec Dieu dans le titre, je ne le prends pas, je veux un livre objectif. Donc, ça veut dire, on fait comme si. On met Dieu dans le titre, on n'est plus objectif. Ça ne peut pas être l'explication. Et c'était une petite anecdote qui illustre parfaitement Romains 1, qu'on tient la vérité prisonnière, elle étouffe la vérité. On ne veut pas de Dieu quand on réfléchit à une question. Voilà. Une petite anecdote de cette semaine. On étouffe la connaissance de Dieu, mais il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est que la colère de Dieu se révèle. Donc, rappelez-vous que la colère, ce n'est pas que Dieu se met en colère comme un être humain, point oui ou point non, et que cette colère déborde parfois comme une rivière qui sort de son lit. La colère de Dieu, c'est son opposition, sa juste indignation face au mal. Dieu qui est totalement juste a le droit de s'indigner quand il voit quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bien. Donc la colère de Dieu se révèle contre les personnes qui retiennent injustement la vérité captive. Et la deuxième conséquence, c'est que les hommes sont inexcusables. C'est le verset 20 qui le dit. Les hommes sont inexcusables. Pourquoi? Et là, on va voir pourquoi ils sont inexcusables. Olivier? Première raison, c'est parce que, voilà la raison en fait, c'est parce que Dieu se manifeste dans la création. Et ce texte nous dit que ne serait-ce que par les œuvres de Dieu, quand on le considère dans ses ouvrages, on peut conclure que Dieu existe, donc sa divinité, qu'il est puissant, parce que pour créer un univers tellement complexe, il faut quand même de la puissance, et qu'il est donc parfait, parce que tout ce que Dieu a fait est parfait. Mais comme dit un autre texte biblique, ce sont les hommes qui ont tout tordu après. Donc, quand on s'arrête 2 instants pour réfléchir, on voit que Dieu se manifeste dans la création. Et ce qui est intéressant, je crois que j'ai déjà dit, je suis en train d'écrire un livre sur l'athéisme, c'est que on a du mal à trouver de vrais athées dans l'histoire de la philosophie. Ils vont mettre Dieu de côté, mais il n'y en a pas beaucoup, et pratiquement pas avant le 19e siècle, et encore aujourd'hui, qui donnent de bonnes raisons de l'athéisme. Ils sont souvent contre la religion. Ça oui. Mais Dieu, c'est quand même autre chose, le Dieu créateur. Donc, cela conforte ce que dit ce texte, que l'on étouffe la vérité, qu'on retient la vérité captive. La deuxième raison pour laquelle ils sont inexcusables, d'abord, ils savent que Dieu existe au plus profond d'eux-mêmes, mais ils refusent de lui rendre grâce. Donc ça, c'est le verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Donc ils ont déclaré en quelque sorte leur autonomie. Ils vont dire, tout vient de mon travail, tout vient de mes études, de ce que je réalise moi-même, pas besoin de remercier Dieu, pas besoin d'adorer Dieu. Et la conséquence encore, c'est que les êtres humains sont égarés, là c'est la traduction du Semeur, dans leur raisonnement absurde, et ils deviennent incohérents. Donc ça c'est les versets 21 et 22 qui dit ceci. Ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi ils sont devenus fous? Parce que finalement, c'est mon mot à moi, donc ce n'est pas dans le texte, cette notion d'incohérence. Être cohérent jusqu'au bout n'est pas évident. N'est vraiment pas évident. Et quand je fais un débat parfois apologétique, je dis, mais c'est difficile d'être cohérent jusqu'au bout avec ses pensées. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, on est invités, Romains 12 le dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est quelque chose qui va durer toute notre vie, où on cherche à mieux raisonner, à mieux comprendre les choses, à mieux comprendre toutes les conséquences de notre foi. Tout comme, en fait, il est difficile que les gens autour de nous acceptent toutes les conséquences parfois de leur non-foi, de leur non-reconnaissance de Dieu. Je crois même, voilà, j'ai mis cette citation de Jean-Paul Sartre, qui au moins était lucide à ce niveau-là, quand dit l'existentialisme pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas. Ça, c'est dans son livre L'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas. Car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher à quelque chose. Donc quand les gens disent, ah moi je suis existentialiste à la légère, même Sartre, au moins, il comprenait que c'était dire, il n'y a pas de possibilité vraiment de dire quoi que ce soit de vrai et d'absolu. Et là, je reviens donc à mon ami Blaise Pascal encore, qui disait que on a le droit de dire qu'on est athée, mais il ne faut pas le dire gaiement. Et j'ai trouvé ça intéressant que quelqu'un même au XVIIe siècle dise ça. Donc, juste avant de parler donc de cela, okay, merci. Je pense qu'il est important pour nous en tant que chrétiens donc de faire le contraire, d'être cohérent et d'adorer Dieu quand on le regarde dans ses ouvrages. Donc quand on est ensemble pour louer le Seigneur, quand on vit notre vie, il est important d'être cohérent. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ses œuvres depuis la création du monde. Une fois, quand j'étais pasteur au Blanc-Mesnil, j'ai amené, c'était l'automne, j'ai amené tout un carton de feuilles tombées des arbres. Et j'ai donné à chacun, à chaque personne, une feuille, en lui demandant de bien regarder ses couleurs, ses formes, ses nervures, en disant, voilà, chaque feuille est différente. Et ça existe parce que Dieu a voulu que cette feuille existe. C'est lui qui a créé toute la vie de cet arbre, avec les saisons, avec la sève qui monte, avec les couleurs, avec les fruits, etc. Deuxième expérience que j'ai vécue, une fois à Madagascar, chez notre fille et sa famille, il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle. Alors, quand il n'y a pas de nuages, on ne peut pas imaginer combien d'étoiles on voit. À Paris, on ne les voit pas. Mais là, c'était nuit noire. Et la Voie lactée était tellement, tellement blanche qu'on s'est dit, ben, ça ne peut pas être ça, ça doit être les nuages. Ça doit être un nuage qui traverse le ciel. Donc, okay. Bon, on a regardé le lendemain, coucher le soleil, mais pas de nuages, le ciel complètement bleu, et encore la Voie lactée qui était là. Mais blanche, comme on ne peut pas imaginer. Donc, je n'ai pas amené de feuilles avec moi, mais vous avez tous une main. Regardez votre main droite. Mais regardez. C'est incroyable ce que l'on peut faire. D'abord, le poignet, qui permet de bouger dans ce sens-là et dans ce sens-là. Mais quel mécanisme! C'est extraordinaire, le poignet. On a un certain nombre de doigts qui nous permettent de faire des choses différentes. On peut pincer avec le pouce et les doigts. C'est extraordinaire si on n'avait pas ça. Et si je vous dis de faire comme cela, fais le point et vous l'ouvrez. Mais comment vous avez fait? Vous avez pensé à ça? Et les signaux sont partis avec des nerfs, je ne sais pas quoi. Vous avez bougé quelque chose dans cet univers, rien qu'à y penser. Ah. Mais toutes ces choses-là, c'est incroyable. Et la plupart du temps, j'ose le dire, on ne vit pas dans cet émerveillement. Alors que nous, en tant que chrétiens, on devrait vivre continuellement dans cet émerveillement de ce que Dieu fait. Donc, ça, c'est une petite parenthèse avant d'arriver. Mes deux conclusions rapides. La première conclusion, c'est osons ce regard lucide sur le monde. Osons. Parce que autour de nous, il y a tellement, tellement d'idéologies et d'idées politiques et psychologiques et théories et ceci et cela que je pense que l'on peut et que l'on doit dire. Mon analyse, c'est que on s'est détourné de Dieu. Et mon analyse, c'est comme ça parce que c'est la Bible qui le dit. Et de le dire, et de le redire, et de le redire. Et on n'a pas à avoir honte. Parce que je trouve que souvent, quand on le dit, les gens, en fait, peuvent être plus touchés par cela qu'on le pense. Parce qu'ils sont, ils voient pas pourquoi les choses sont comme ça. Et la deuxième conclusion, c'est de nous-mêmes honorer Dieu, lui rendre grâce, le remercier. Parce que si les hommes ont retenu la vérité captive et l'ont étouffée, le Seigneur nous l'a montré, je pense, la plupart ici, sinon tous. Donc, vivons avec cette vérité pour adorer Dieu, l'honorer et lui rendre grâce en toutes choses. Chaque fois que, je ne sais pas, on verse un café, c'est extraordinaire que cette liquide tombe parce qu'il y a la gravitation. Et puis les êtres humains, on a appris avec les matières que le Seigneur a mis dans ce monde à faire des tasses. Enfin, je ne sais pas, quand on commence à réfléchir, le monde est merveilleux. Parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc on va l'honorer, même pour chaque tasse de café. Prions. Seigneur, je ne veux pas que l'on termine ce moment de message sans nous tourner vers toi pour te dire un grand merci parce que dans ta parole, tu nous as révélé la vraie raison des choses. Et que lorsqu'on parle aux autres, ce n'est pas pour faire du prosélytisme, ce n'est pas pour essayer de faire grandir une association, une église, mais c'est parce que c'est la vérité, tout simplement. Et Seigneur, donne-nous le courage de le dire, parce qu'au fond, c'est peut-être la vérité la plus importante que les gens peuvent savoir, ce vrai diagnostic des problèmes de notre planète. C'est vrai après que nous avons peut-être des choses à faire, des actions à faire, écologiques ou autres, je n'en sais rien, pour essayer de faire en sorte que les choses ne s'empirent pas. Mais, Seigneur, aide-nous à ne pas avoir honte, comme Paul a dit, de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.